Je serais pas contre. Boulevard 102.
6h54 minutes exactement. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est Boulevard Gaines le matin. Pour réagir avec nous, 418-971-1021. Vous pouvez également nous rejoindre sur twitch.tv/BLVD/FM. À la météo aujourd'hui, il fait présentement 14 degrés. Ça sera 20 degrés avec des possibilités d'averses, nappes de brouillard qui vont se dissiper ce matin. Donc, partiellement nuageux cet après-midi. Devrait pas avoir de pluie. Alors, il devrait faire beau pour le match Boulevard des Capitales de Québec. Max, circulation?
Je pensais qu'hier... Ben, en fait, pas je pensais. Hier, on revenait tranquillement à circulation habituelle, plus difficile. Là, on est de plus en plus dedans. Présentement, Capitale-Ouest, Stau-Rouge, entre le boulevard Raymond et l'avenue du Bourg-Royal. L'accès au pont Pierre-Laporte, direction nord, déjà très difficile. En arrivant par la 73, là, ça refoule jusqu'à la rue Beaulieu. Pont de Québec, c'est au rouge foncé. Ça va vraiment pas bien présentement. La 20 Ouest, quand même bien jammée. Hauteur Taniata aussi. Fait que, les amis, c'est bel et bien reparti.
Alors, bonne patience dans la circulation et syntoniser le boulevard 101 pour être les mieux informés, justement parlant d'un chroniqueur qui nous informe toujours bien sur des sujets importants de l'actualité. On a la chance d'aller rejoindre Gabriel Giguère, analyste politique pour l'Institut économique de Montréal. Gabriel, comment ça va, mon ami? Gabriel, comment ça va, mon ami?
Ça va très bien.
Cool, excellent. Gab, on saute directement dans le vif du sujet. On parle beaucoup de budget, justement. D'ailleurs, on s'en parlera peut-être un petit peu plus tard là, cette semaine avec le budget fédéral ou plus tard durant la session, un budget fédéral qui va peut-être aller jusqu'à 92 milliards de déficit. C'est sorti ce matin, un budget qui va être présenté au mois d'octobre. Mais là, on parle de dépenses en éducation à cette rentrée scolaire. Et je suis resté surpris quand tu m'as mentionné, Jeff, on a dépensé plus de 7 milliards de dollars, c'est-à-dire une augmentation du budget de l'éducation de plus de 7 milliards de dollars depuis 2015. Comment on explique ça du côté du ministère de l'Éducation?
Bien, en fait, faut pas se surprendre, hein, parce que quand on a vu en mars 2025, le gouvernement Legault est arrivé de l'avant et il indiquait justement là pour dire non, nous, on coupe pas. On a augmenté notre budget de portfolio de plus de 50%. La santé, on le sait, dans les 55%, identique pour l'éducation. Donc, on est parti là, de quelque chose comme 15, 16 milliards, puis on a monté ça là à l'heure où on se parle environ vers 23 milliards pour l'éducation. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Puis des fois, on se gratte la tête parce qu'on se dit, coudonc, sont où les professeurs? Comment ça, il manque encore des milliers de personnes?
Ben oui, parce qu'on voyait qu'il manque encore 2300 enseignants. On sait que c'est en majorité dans la région de Montréal, région où justement tu résides, Gabriel. Mais, tu sais, je trouve que l'éducation, c'est un peu rendu comme la santé. C'est un gouffre sans fond. On met de l'argent, mais on n'offre jamais de meilleurs services.
On n'offre pas de meilleurs services. C'est exactement ça. On a l'impression que c'est un panier percé. Fait qu'on se dit, ben, coudonc, il se passe quoi avec notre argent? Est-ce qu'on a une meilleure qualité? On regarde les tests également du ministère là, de l'Éducation. Puis il n'y a pas d'amélioration claire depuis 2015. Même que quand on regarde, surtout au niveau du français, on voit vraiment une chute là, à cet égard. Donc, faut se poser des questions sur comment on peut changer la situation. Parce que le diagnostic est très clair. On envoie pas mal d'argent. Puis il y a certaines approches là, qui ont émergé dans les années 70. Et qui ont pris forme aussi à travers dans différents pays, notamment en Suède.
Ben exactement, c'est la question que j'allais te poser. J'aime toujours ça quand on parle du Québec, puis on se dit, hey, voyons, au Québec, on arrache avec telle chose. C'est quoi les comparables qu'on peut aller chercher à travers le monde?
Ben en fait, ce que je propose ici pour bien comprendre, là, c'est de dire, plutôt que de dire aux parents, là, écoutez, là, vos enfants vont aller à l'école de quartier. Ce qu'on pourrait faire, c'est de dire, écoutez, vous allez décider où vos enfants vont aller. Vous allez avoir un chèque. Parce qu'en réalité, quand on regarde les dépenses du ministère, ça coûte à peu près 21 000 $ par enfant. Quand on prend toutes les dépenses du ministère de l'Éducation, puis on divise par le nombre d'élèves à plus d'un million aux primaires et secondaires. Ce qu'on pourrait faire, c'est de dire, au lieu d'être obligé d'aller à ton école de quartier, qui des fois, rappelons-le, n'est pas toujours la meilleure école, mais on pourrait dire aux parents, vous avez accès au coût moyen d'éduquer votre enfant. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle là, la politique du chèque scolaire. Puis vous allez décider où vous envoyez votre enfant.
Donc, avec le 21 000, par exemple, je pourrais envoyer mon enfant dans une école privée?
Non seulement ça, puis absolument, mais en plus de ça, ce qu'on va voir apparaître, c'est une augmentation des écoles indépendantes, parce que justement, les gens vont dire, ben, coudonc, il me semble qu'à l'école public, par exemple, ben, le style magistral, mon petit gars, c'est un petit gars turbulent. Il a besoin de bouger un peu plus. Ça prend autre chose. Ben, il va y avoir des écoles qui vont émerger, des types d'écoles indépendantes. Puis là, c'est là que c'est intéressant dans les comparaisons internationales. Parce qu'une fois que c'est dit, cette politique-là, elle a été adoptée ailleurs. Elle a été adoptée en Suède, notamment, où, en 1992, on s'est dit, ben là, on va donner plus de choix aux parents et on va également créer de la concurrence entre les écoles. Donc, les écoles vont devoir s'améliorer. Parce que si t'es pas une école intéressante, tu vas simplement attirer moins d'élèves et tu auras moins de financement. Et ce qu'on a vu en Suède, ben c'est fort intéressant parce qu'on est passé de 39 écoles indépendantes en 1992, puis 15-17 ans plus tard, aux alentours de 2010, on était déjà rendu à 392 écoles. Donc, ça fait plus que fois 10 cette politique-là. Il y a eu des bons résultats. Les parents sont contents de la politique. Et d'ailleurs, aux Pays-Bas, qui est un autre pays qui a adopté cette politique-là, on voit que c'est encore l'État là qui va financer. Donc, faut pas penser que c'est vous autres avec le 6, 7, 12 000 piastres par année que vous allez devoir débourser. C'est pas ça. C'est vraiment l'école qui continue à financer comme aujourd'hui, mais c'est le modèle de financement qui change. Le Pays-Bas également, là, il y a de bons résultats. Donc, il va falloir que le ministre de l'Environnement, il va falloir qu'on réfléchisse à autre chose. Il va falloir qu'on arrive avec une nouvelle politique parce qu'on le comprend qu'avec des déficits de 13 point quelques milliards puis des augmentations de plus de 50% depuis l'arrivée du gouvernement Legault au pouvoir en éducation, ça commence à être assez complexe, là.
As-tu l'impression, Gab, qu'on est au Québec un peu fermé d'esprit, puis que les choses, on veut pas trop les changer, puis qu'on trouve que ça va bien notre système d'éducation, puis qu'on l'a bâti, puis on est fier, fait qu'on touchera pas à ça. As-tu cette impression-là?
Ben moi, j'ai l'impression. Oui, clairement. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose très, très clairement. Et faut bien le comprendre. C'est les syndicats. Que les syndicats, peu importe ce qui va se passer, c'est une force d'immobilisme. Si vous voulez faire quelque chose, ils vont se déchirer la chemise. On l'a vu en novembre 2023, notamment au niveau de l'éducation. Et si vous dites, écoutez, on va donner le choix aux parents maintenant, c'est les parents qui décident. C'est simple comme ça. Vous allez avoir des écoles indépendantes qui vont émerger, qui vont faire de la concurrence aux écoles publiques. Je pense que c'est une chose essentielle. Parce qu'à l'heure où on se parle, les écoles publiques n'ont aucune incitation à l'amélioration dans la mesure où c'est l'école de quartier. Tu sais, si ton quartier, il y a des bébés, là, dans 5 ans, c'est sûr que tu vas en avoir des petits étudiants de maternelle. Tandis que là, il faut que tu offres une prestation de service améliorée. Il faut que l'instruction des jeunes soit excellente. Et là, les syndicats se disent, ben là, on n'aime pas ça, la concurrence, nous autres, on aime ça avoir le monopole. Et il est là le problème, en partie. Puis plus largement aussi, dans l'espace public, on a comme une approche sacro-sainte, là. L'école publique, mais en réalité, moi, je pense toujours aux parents et à la qualité de l'éducation des élèves. Si une école indépendante peut donner une meilleure éducation, si elle ne peut pas, c'est pas un problème, les parents vont choisir l'école publique.
Mm-hmm. Mais Gabriel, quand je t'écoute, là, je fais un parallèle avec quand on parle d'économie. Quand on parle d'économie, on parle toujours de laisser la place au libre marché puis que le gouvernement arrête de décider ça va être quoi les grandes tendances économiques en subventionnant justement des entreprises à son gré. Puis là, on a beaucoup parlé de la filière batterie, évidemment, avec Northvolt. Je vois un peu le pendant, mais en éducation, en disant aux parents, voici 21 000 $ choisis ton école, choisis le meilleur endroit pour ton enfant, c'est que le gouvernement arrête de choisir ce qui est bon pour nos enfants, mais c'est le parent qui décide ce qui est bon pour son propre enfant. Est-ce que je suis dans l'erreur dans ce parallèle-là?
Non, tu mets le doigt exactement sur cette belle mécanique-là. C'est vraiment de redonner le choix aux parents. Parce qu'on considère, en tout cas, tout le moins, je considère que le gouvernement ne devrait pas vous dire « Voici l'école à laquelle votre enfant va aller. » Si vous trouvez que c'est pas une bonne école, après ça, vous allez essayer de faire une dérogation à votre centre de service scolaire. Puis là, ça fonctionne pas parce que l'école est déjà pleine où vous voulez que votre... Bref, vous comprenez la dynamique. Ça commence à être complexe. C'est pas au gouvernement à choisir. Puis au final, si les parents peuvent avoir plus de choix, c'est une bonne chose. Mais c'est vraiment important de comprendre que cette politique-là, elle vient créer un marché. Elle vient dire essentiellement, voici le marché de l'éducation, voici l'importance de donner un meilleur service aux élèves, parce que sans quoi, ben, s'il n'y a pas de mécanisme de concurrence, il n'y aura pas d'incitation à l'amélioration. Fait que c'est, comme tu dis, c'est totalement une perspective de libre marché. Je pense que c'est important de réfléchir également à des solutions nouvelles dans un contexte d'explosion des prix, puis également dans un contexte peut-être favorable sur le plan médiatique, étant donné la rentrée scolaire. C'est toujours intéressant d'avoir des nouveaux sujets d'éducation, je pense, parce qu'on doit avoir des nouvelles mesures d'éducation.
Gabriel, c'est ce que j'aime avec l'Institut économique de Montréal avec toi, c'est que vous n'hésitez jamais, puis là, je vais prendre ce terme-là, shaker les colonnes du temple, à nous remettre en question, à sortir en dehors de la boîte. Je termine avec ça. Avec 21 000 par parent, on parle de deux problématiques. Il y en a une qui fait la manchette aujourd'hui, c'est-à-dire le transport scolaire. Bien, si je donne 21 000 aux parents, le 400 $ de transport scolaire ne deviendra pas une problématique pour le parent. Et même principe, si je lui donne 21 000, il y a plein d'écoles privées, je sais, à l'heure actuelle, surtout aux primaires, qui offrent les repas dans l'inscription aux enfants. Donc, ça vient rejoindre une préoccupation. Et là, tu vas rire parce que je mets en parallèle QS et l'Institut économique de Montréal. Mais ça vient répondre à une préoccupation de QS que tous les enfants mangent à leur faim. Et là, l'école pourrait vraiment être un lieu pour faire en sorte que les enfants s'alimentent adéquatement.
Vous savez, quand on aligne QS et l'Institut économique de Montréal, c'est rare comme une éclipse. Hein? Ça arrive, on en a vu des éclipses récemment. Mais des fois, ça s'aligne.
Mais qu'est-ce que t'en penses? Avec ce que tu proposes, on va réussir à répondre à une préoccupation de QS. Donc, c'est la preuve que, selon moi, c'est une proposition qui fait tout son sens. Parce qu'autant à gauche qu'à droite de l'échiquier politique, on va pouvoir satisfaire les gens.
Absolument, puis je pense qu'à la fin de la journée, si une école qui le propose, une autre école ne le propose pas, c'est peut-être la petite différence, je vais me permettre de dire, ben l'école a le droit de pas le proposer.
Non, oui,
même
oui.
Si on considère que la nourriture doit être inclue, pourquoi pas, au final, et ça reste toujours ça, le parent va choisir quelle école est bonne pour son enfant, mais tant mieux si on est capable d'arrimer la vision là, de l'IEDM et de QS ce matin. C'est assez rare que ça arrive, mais c'est bien tant mieux.
Je suis très content de t'avoir surpris avec mon argumentaire QS Institut économique de Montréal, Gabriel, en cette fin de chronique.
Content aussi, j'avoue. Ça part bien ma journée.
Gab Giguère, on adore te parler. N'hésite jamais à nous envoyer des sujets comme ça qui sortent à l'extérieur de nos pensées naturelles que l'éducation, ben c'est le gouvernement qui décide tout. J'ai adoré notre conversation. Merci encore une fois et on se reparle prochainement, mon ami.
C'est toujours un plaisir. À bientôt.
Salut, Gabriel. Merci. Hey, j'adore quand on sort à l'extérieur du réel, de notre pensée qu'on a toujours eue. Puis c'est pour ça que je l'aime, Gabriel Giguère. Il vient toujours, je vais le dire comme ça, là, il vient toujours brasser mes acquis, mes valeurs. Puis là, souvent, il arrive avec des arguments que je fais. Ah, sais-tu, ça a de l'allure, ce qu'il explique.
Il peut parler de tout. Il y a ça qui est le fun aussi. Oui, oui, on pourrait penser que l'Institut économique de Montréal, ben on parle vraiment toujours d'économie puis que c'est très ciblé. Mais on peut parler d'absolument tout avec Gab.
Exactement. Donc, courte pause à Boulevard 102.1 et on revient par la suite avec l'essentiel de l'actualité avec Mathias Turcotte. Vous écoutez Boulevard Against. Le matin, on est très content que vous soyez à l'écoute avec nous. Boulevard 102.1.